Le temps des chouquettes, votre rodéo littéraire, une émission présentée par Lucas Beria, un mardi par mois à 18h sur Radio Campus Paris.
Chères chouquettes du monde entier, vous êtes-vous déjà senti inapte, comme circonspect devant les choses, les exigences et les échéances, soudain étreint par la flemme et la perte de sens, conscient d'exister, certes, mais peinant à vous mettre en ordre de marche, sorte de René Descartes à la va comme je te pousse. La formule est d'Olivier Aralambon, écrivain génial de retour en librairie en ce printemps 2026, avec Le petit homme dans ma tête qui m'empêcha de m'y mettre, paru aux éditions Premier Parallèle. Celui qui a longtemps écrit sur l'effort physique et la performance, avant de raconter la mue du corps et l'âge qui vient, construit avec ce nouveau livre une apologie courageuse du moindre effort, autant que de l'art d'être circonspect. Une méditation subtile sur l'inadéquation avec l'existant et une charge revigorante contre l'injonction à faire jusqu'à l'épuisement. Et c'est accompagné du personnage de Lee Mellon, imaginé par l'écrivain américain Richard Brautigan, qu'Olivier Aralambon esquisse sa philosophie de la flemme. Alors rencontre avec un éternel indécis, ne prenez que vos oreilles, c'est le temps des chouquettes. Salut Olivier.
Bonjour, bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bon, je vais me permettre de tutoyer quand
oui,
même,
oui, bien sûr.
On fera pas semblant de se découvrir, puisque tu avais été mon premier invité pour la toute première émission que j'avais animée il y a quasiment 2 ans, jour pour jour, un mois près. À l'époque, tu étais venu pour ton livre Un corps d'homme, dont je recommande aussi chaleureusement la lecture. Après avoir beaucoup écrit avec minutie sur la performance physique, sur le corps, tu t'attaches avec ce nouveau livre à une sorte d'apologie du moindre effort, et en apparence, ça peut ressembler à un grand écart. Alors, je voulais démarrer en te demandant un peu pourquoi tu avais voulu passer de ces deux sujets qui semblent comme ça diamétralement opposés.
Oui, diamétralement opposés, ça, on peut aussi dire qu'il y a sans doute une symétrie. Alors, comment vous dire ça sans m'emmêler les crayons trop vite C'est-à-dire, sans me raconter, parler forcément à la première personne, mais j'ai consacré beaucoup de temps à faire du sport, en effet, et même à plein temps, parce qu'entre 20 et 30 ans, je le répète souvent, l'expression la plus appropriée, c'est vivoter de corps cycliste. J'ai survécu, parce que j'aimais beaucoup le sport, sans aucun doute, mais aussi beaucoup par défaut, parce que je crois maintenant, où les choses sont plus claires pour maintenant, les choses deviennent plus claires pour moi rétrospectivement, parce qu'on sait bien que la rétrospection, c'est aussi la possibilité d'écrire un récit, même si, enfin, mais biographique aussi. J'ai fait du sport un peu par défaut, sans doute parce que j'ai été impressionné, effrayé par les responsabilités de la vie d'adulte qui s'annonçaient. Et j'ai le sentiment, ayant consacré beaucoup au sport, et puis, ayant toujours travaillé dans cette voie-là, par un effet de conséquence, n'étant jamais vraiment sorti du milieu sportif et des discours sur le sport, qui pourtant me sont inconfortables presque depuis le début, j'ai trouvé que cette espèce de carrière sportive avait été aussi un piège dans lequel je suis tombé. C'est-à-dire que, de façon très infantile, j'ai joué un peu au héros sportif. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, pour le dire vite, parce que pour répondre à une première question, n'est-ce pas, j'ai l'impression que cette activité-là, parce qu'elle était exercée à outrance, était un peu une forme de refuge et un peu d'agitation. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on s'agite extérieurement qu'on utilise son corps de façon très explicite et très excessive et très extrême qu'on est actif. Voilà, aujourd'hui, ça me paraît pas si évident. Alors, c'est peut-être parce que j'ai 59 ans, que mon taux de testostérone s'effondre, que, voilà, et que je ne ferai pas de cure comme Elon Musk. que c'est peut-être parce que je m'apaise. Il y a de ça, évidemment. Mais voilà, je me suis agité. Et aujourd'hui, on vit dans une société où le sport est tellement... me paraît excessivement valorisé. Alors, sans trop vite versé dans les clichés qui consistent à parler d'opium du peuple, etc. Mais c'est vrai qu'on occupe les gens et qu'il y a une dimension comme ça. Mais je crois aussi qu'on... Ben voilà, et à plus forte raison aujourd'hui, la vie est tellement inquiétante d'une façon générale. Faire son métier d'homme, comme dit l'autre, c'est intimidant et on trouve des voies de garage, enfin des façons d'y échapper. Voilà, pour moi, le sport, c'était une petite lâcheté. Je suis sûr que dont j'ai eu beaucoup de mal à sortir.
Et tu dis aussi, enfin, c'est un peu plus loin dans le livre et on y reviendra, mais là je rebondis là-dessus parce que justement, le sport qui a été à la fois un refuge, t'en parles aussi, ici comme une fainéantise. Cette espèce de discipline et de routine du sport, tu fais un petit twist à un moment dans le livre où en fait tu le réassocies à une forme de fainéantise et de flemme d'une certaine manière. Alors,
oui,
alors, tu peux expliquer ça ?
Oui, tout à fait. Alors bon, il y a une petite dimension de provocation que j'essaye toujours, enfin qui m'est peut-être assez naturelle mais à laquelle je tiens. Je veux dire, je suis un peu content de faire un pied de nez à ces discours que je suis moi-même obligé de tenir au jour le jour professionnellement sur le sport souriant, affirmatif, etc. Le sport, par définition, c'est très énergivore, mais ça dévore beaucoup d'énergie musculaire, d'ATP, de glycogène, de graisse, tout ce qu'on veut, enfin tout ce que la physiologie nous met sous la main. Mais c'est souvent une façon de mécaniser son activité, quoi. C'est-à-dire que... Alors, je prends la précaution de dire, et dans le livre et maintenant, que de cette espèce de critique comme ça, de cette espèce de provocation, j'accepte un peu les très grands sportifs, ceux qui en font une virtuosité ou un art, etc., ou bien ceux qui échappent par là à une condition sociale difficile. Enfin, je ne parle pas des champions, je parle des gens qui, comme moi, sont des gens vivant en Europe de l'Ouest en 2026, qui ont encore le loisir de voter, de travailler, d'être chauffés, etc. Et donc, je m'étonne un peu qu'on s'attache à des choses aussi légères, aussi vides. Il faut que je dise, j'imagine, avant que tout le monde ait envie de me tuer, je ne recommande à personne d'arrêter le sport, de dire que le sport c'est de la merde, que voilà. Mais cette espèce d'obsession qu'on observe partout, cette espèce de radicalisation de la pratique sportive qu'on voit avec le trail, toutes les disciplines d'ultra-endurance, avec l'aerox, avec le crossfit, on fabrique clairement des obsédés du sport et que laisser l'exercice physique prendre cette place-là dans la vie, ça me paraît symptomatique de je ne sais quoi, mais de devoir être... signalé, parce que enfin il y a une dimension évidente en effet de mécanisation du geste et puis de la pensée. Il y a un côté nombreux articles que j'ai commis, j'ai travaillé autrefois, enfin il y a quelques années avec une préparatrice mentale des équipes de France qui était une fille formidable, efficace et tout et qui rendait service aux athlètes. Mais la culture de la préparation mentale, c'est arrêter de penser. Et c'est vrai que quand on s'attache à l'excellence d'un geste physique, que ça soit, j'imagine ça parce que j'en suis incapable, mais que ce soit jouer du violon, pédaler ou sauter à la perche, quelque part, il faut apprendre non pas à ne pas penser, à atténuer la pensée consciente, la réflexion en tout cas, pour confier à son corps. Enfin, il faut entraîner son corps pour avoir confiance en lui et cesser de penser. Mais il y a quand même, derrière ça, embusqué l'idée que penser, ça perturbe nos vies, qu'on pense trop, qu'on dort mal, que gna gna gna. Et voilà, ça me paraît curieux. Et les gens qui consacrent 15 ou 20 heures de leur temps alors qu'ils travaillent et qu'éventuellement ils ont une famille ou qu'ils vivent en couple, etc., 15 ou 20 heures par semaine à faire du sport, moi j'ai du mal à croire qu'ils ne soient pas en train d'essayer d'échapper à quelque chose. Et c'est complètement humain, hein, mais et moi-même, je m'en aperçois bien tard.
Alors on va revenir à tout ça, mais en fait justement il faut aussi expliquer un peu ce qui a précédé et présidé à l'écriture de ce livre. Il y a deux choses, c'est que donc ce livre il fait partie d'une collection des éditions Premier Parallèle qui s'appelle La vie rêvée des personnages, dans lequel on propose aux auteurs qui contribuent de parler d'une relation qu'ils entretiennent depuis longtemps avec un personnage de fiction de leur choix et de voir un peu ce que ce personnage de fiction a pu avoir comme incidence dans leur vie. Toi, en l'occurrence, tu prends le personnage de Lee Mellon, personnage d'un roman de l'écrivain américain Richard Brautigan. Mais en fait, ton point de départ, c'est ce que tu racontes dans les premières pages du livre, c'est à partir de ton vécu, une sensation d'un peu de circonspection dans l'enfance, l'adolescence, face à la vie et les obligations qui viennent. Et tu vas, à partir de cet état de circonspection, dérouler le fil pour en fait remettre en avant une version, pas forcément positive, mais disons émancipatrice, de la circonspection et de ses corollaires éventuels qui seraient la paresse et la flémardise. Alors, est-ce que tu peux un peu nous dire, déjà, c'est un peu long comme question, mais pourquoi ce mot de circonspection ?
Oui, alors je crois qu'il y a deux choses dans la question que tu viens de me poser, ou les questions... Il y a deux voies, il y a celle de ma paresse native ou naturelle, il y a celle de ce que ce personnage vient réveiller de mon rapport à la paresse. Parlons peut-être de Lee Mellon d'abord. En effet, c'est un peu un texte de commande, entre guillemets, c'est-à-dire que dans la collection que Camélie Petit a initiée chez Premier Parallèle, il s'agit de partir d'un personnage de fiction, non pas pour faire un commentaire de l'œuvre ou du personnage lui-même, mais quand un personnage a compté dans notre vie, de développer un peu, enfin de dire un peu pourquoi, de raconter ce rapport. Et ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais Lee Mellon a... Je ne sais même pas si Brautigan, d'ailleurs, en parle comme d'un... Enfin, je ne sais même pas si, je sais que ce n'est pas explicitement le cas, que Brautigan n'en parle pas forcément comme d'un feignant. Il décrit quelqu'un qui ne peut nous apparaître que comme marginal. Et ce qui est intéressant et qui permet de projeter très facilement, c'est qu'il le décrit vraiment à grande touche. C'est très imprécis, il y a beaucoup de mystères. Enfin, il y a quelques touches de couleurs comme ça très vives qui laissent vraiment, qui stimulent l'imagination. Il n'est pas... c'est un grand écrivain, hein, Brautigan, c'est pas pour rien. Voilà, et moi, ce Mellon m'évoquait quelque chose comme ma propre fascination pour... Comme c'est le cas pour tout le monde, pour ce dont je suis incapable, enfin je me suis montré incapable, c'est-à-dire échapper aux normes qui nous sont imposées, être capable de vivre de façon marginale, de renoncer à un certain nombre de choses, parce qu'il ne parle pas beaucoup, Mellon, mais il vit vraiment de façon marginale, quoi. Et donc ce personnage est à la fois très drôle et très subversif, et d'une certaine manière, j'aurais aimé lui ressembler, alors que non, alors qu'il a trois dents pourries dans la bouche, alors que voilà, je le vois plutôt comme une espèce de cheminot, un peu limite, un peu crado, un peu voilà. C'est ce que je projette sur lui. Alors ensuite, ce à quoi il m'a servi, Mellon, c'est que il fait écho à cette. Moi, j'ai jamais su, je n'ai jamais eu le moindre projet dans la vie, ou des projets à court terme. Mais quand on me demandait petit ce que je voulais faire plus tard, à part être un héros de western ou de bande dessinée, j'avais aucune idée du métier que je voulais choisir. Et plus j'ai grandi, moins j'ai su. C'est-à-dire que, je ne sais pas, quand j'étais au lycée, ou les quelques mois que j'ai d'abord passé à la fac avant d'aller faire du vélo pendant 10 ans, voilà, les gens semblaient avoir des projets, des idées de métier, des idées de carrière, et j'ai toujours eu cette impression très forte de ne pas savoir ce que les gens faisaient concrètement, à part comme je le dis dans le livre, à part les boulangers, les menuisiers, les policiers, les voleurs. La vie professionnelle, pour moi, ça a toujours été un brouillard, et j'ai jamais fait ni de projet professionnel ni de projet de vie. Enfin, j'ai deux enfants qui me sont venus, que j'adore. Voilà, j'ai une compagne, il y en a eu d'autres avant elle. Mais voilà, j'ai pas projeté le... Et je le dis, je sais pas comment, en toute simplicité, il y a pas de mépris dans dans mon propos à l'égard des gens qui savent ce qu'ils veulent depuis toujours, mais ça m'est vraiment étranger. Et donc, dans les faits, ça se traduit, cette absence, cette incapacité à faire des projets, ça se traduit quand même souvent par à quoi bon, quoi. C'est-à-dire, quand on écrit ou quand on étudie, c'est un peu le crayon qui retombe sur la table, parce que, voilà, donc il y a une forme de flemme, il y a une forme d'accablement, parce que je ne sais pas où lancer mon grappin, quoi. Et parce que dès qu'on pense un petit peu ou dès qu'on gamberge, comme on dit, c'est-à-dire ce qu'il faut surtout éviter pour faire de la préparation mentale, dès qu'on gamberge, et ben, on s'aperçoit qu'il y a de réponse affirmative à rien dans la vie. C'est-à-dire qu'on peut facilement rester bloqué dans l'hésitation. Et c'est un peu mon cas. Alors évidemment, socialement, c'est pas le meilleur parcours possible, c'est pas le long fleuve tranquille, ou c'est pas la réussite, c'est pas les signes extérieurs de la réussite. Mais je voulais aussi rendre un peu... je m'aperçois qu'en fait, cette espèce d'errance qui a caractérisé ma vie sportive, par exemple, finalement, j'en suis tout pétri, et je suis pas si malheureux que ça aujourd'hui de ce que je suis devenu. Donc j'ai appris comme ça aussi beaucoup. Et je crois que l'hésitation, la flemme et l'accablement ont finalement une forme de valeur et que sans me précipiter, après tout, j'ai quand même tracé une route qui n'est pas si honteuse, quoi.
Et le personnage de Lee Mellon, du coup, tu le rencontres quand dans ton parcours de lecteur ? Est-ce que ça a été vraiment le premier auquel tu as pensé quand tu t'es mis à écrire ce livre-là ?
Non, ça ne pouvait pas être que lui. J'ai pensé à deux ou trois autres et puis j'avais un peu abandonné l'idée, c'est-à-dire que je n'allais pas à toute force produire un texte. Et Lee Mellon, je l'ai rencontré deux fois parce que j'ai lu ce livre-là il y a, je ne sais pas exactement, une vingtaine d'années la première fois. Et puis je l'ai relu dans une période plus récente quand j'ai rencontré ma compagne actuelle. C'est un livre qui était dans la discussion entre nous, qu'elle ne connaissait pas, elle qui m'impressionnait un peu parce qu'elle est très lettrée et tout ça. Et donc ça m'a permis un peu de faire le barbeau et de lui parler de ce personnage dont elle ignorait l'existence et qui lui a beaucoup plu. On a lu ensemble ce livre-là. Et c'est elle qui, quand je lui ai parlé de la proposition de premier parallèle, elle m'a dit « mais Lee Mellon, bien sûr ». Voilà. Et donc, en effet, disons que d'une façon générale, j'ai pas mal été fasciné, on est nombreux, hein, par les personnages marginaux. Enfin, c'est toujours sur cela qu'on écrit, d'une certaine façon.
J'en profite, mais c'est la citation d'ouverture que tu prends de Jean-Luc Godard pour ouvrir le livre, qui est celle-ci, c'est la marche qui tient la page.
Puis l'image est très puissante quand même, parce que ça veut dire qu'une société qui laisserait pas de place, enfin, bien, elle en laisse sans doute bien malgré elle, hein, mais je veux dire, c'est aussi le génie des gens qu'on appelle des marginaux de trouver d'autres façons de vivre qui leur rendent leur propre vie supportable, qui permet aussi à la société d'aller en paix et de tenir selon ses propres règles, y compris celles que tout le monde n'accepte pas, ou celles dans lesquelles tout le monde n'est pas capable de se couler, quoi.
Et alors, il y a un lieu, et il y a beaucoup de pages consacrées à ça, il y a un lieu en particulier où l'opposition entre la marge et le centre existe beaucoup dans la société actuelle, mais pas seulement, c'est la question du travail. Et sur le travail, t'écris notamment ceci en faisant un peu une généalogie de la chose. « Vieux chrétiens que nous sommes, et je m'en compte, et aussi fragmentés d'esprit que nous soyons désormais, ne reste au centre de nos vies amoralisées que ce vestige pourtant monolithique et indéracinable, le travail. Central, le travail, sacré et amer. » Et justement, je trouve que... On le sent un peu là dans tout ce qu'on se dit depuis une vingtaine de minutes, mais ton texte par rapport à la marginalité, c'est aussi une manière de réhabiliter tout ce qui pourrait sortir de cette obligation au travail. Et justement, je pense que tu nommes sous le mot de la paresse, de la flemmardise, de la circonspection, c'est un peu peut-être ce qu'il y a entre eux, cette tension qui est le travail comme sacralité et l'amertume en même temps qu'on a y passé autant d'heures dans nos vies. Pour toi, est-ce que cet éloge de la flemme, c'était une réponse à ce rapport-là très paradoxal qu'on a tous avec le travail ?
Oui. Bah, y a de ça, forcément. C'est-à-dire que je crois qu'il faut faire une distinction importante. Enfin, il y a des nuances, mais c'est plus que ça, entre activité, travail... effort, parce que évidemment le travail qui est difficile à vivre, c'est celui qui nous est imposé, qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais qu'on est obligé de faire pour vivre, et qui manque de sens. On dit toujours que heureux sont les gens qui s'intéressent à leur travail, qui s'intéressent intimement et profondément à leur travail. Oui, dans la paresse, justement, dans le mot de paresse, il y a une dimension morale et culpabilisante, etc., qui, dont je fais la généalogie, c'est beaucoup dire, mais enfin, bon, oui, on sait que Adam et Ève ont été chassés du paradis, ou selon les théologiens et les théologies, pour les uns, ils étaient oisifs, pour les autres, ils cultivaient le jardin d'Éden, mais c'était pas pénible, quoi. Et c'est la chute qui les a condamnés au travail douloureux, au travail souffrant, à la sueur, à la pénibilité. Voilà, cette pénibilité, comment dire, dont on s'est emparé, enfin, je ne suis pas du tout spécialiste, mais à laquelle le catholicisme et la réforme donnent des sens différents, c'est-à-dire on a un peu, dans la tradition catholique et baroque, un espèce de dolorisme, etc., qui est très actif dans la culture sportive, par exemple, dans la conception que les sportifs se font de leur effort. Ça dépend des sports, mais voilà, il y a de ça. Et puis un travail, on connaît le cliché, on connaît plus ou moins bien le livre de Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, un travail productif, un travail géré qui consiste à... mais qui est la réponse à une vocation, ce que Luther appelle le Beruf, et qui permet d'accumuler des richesses. Donc, je suis loin d'être le premier et évidemment aussi très loin d'être le dernier à mettre en évidence cette dimension du travail et cette dimension obligatoire du travail et un peu absurde dans un monde qui produit plus de richesses qu'il n'en faudrait pour nourrir tout le monde, mais qui ne nourrit pas tout le monde. Voilà, donc le travail est bel et bien une forme de torture, même si pour nous cette torture elle est très douce. Nous, citoyens, dont je parlais tout à l'heure.
Mais justement, alors, sur cette question-là de l'aspect négatif, moralement parlant, qu'on peut porter à la flemmardise, à la paresse, c'est vrai que c'est des notions qui sont pas connotées positivement par rapport à l'aspect un peu sacrificiel du travail et du sport. C'est ce que tu expliquais en début d'émission, la multiplication, effectivement, des sports marathons, des sports à haute intensité qui valorisent le dépassement de soi. Toi, en réponse à ça, il écrit ceci: et nous, on a mal aux reins, on a des ampoules, des troubles de l'attention, des lunettes, des maladies professionnelles, de l'ennui aussi, beaucoup d'ennui, on en bave au boulot. Étonnez-vous qu'on boive, qu'on divorce, qu'on préfère le chômage en dépit de la frugalité qu'il impose, pardon, que notre sens éthique paraisse lavé à l'eau de Javel, dépigmenté comme la peau d'un poulet en batterie. Or, ce que je dis, moi, flemmard compétent bardé de tous ces titres, c'est que quitte à se tenir debout comme nous y sommes invités aujourd'hui, sur la rambarde de l'Armageddon, c'est bien contre cette folie du travail et la culpabilité qu'elle traîne qu'il faut retourner le peu de morale qu'il nous reste. Tel est pour moi l'enseignement de Limelon. Ce retournement moral-là, qu'est-ce qui fait aussi qu'il est si peu évident aujourd'hui ? La tradition du droit à la paresse de Lafargue, elle date pas effectivement d'il y a 5 ans, mais on n'a pas l'impression que ce soit toujours si évident de l'affirmer malgré tout. On se sent toujours un peu coupable surtout, de revendiquer la paresse, quoi.
Alors, un peu coupable, ouais, c'est une chose. Et puis, Lafargue, ce qui est original dans ce texte, c'est qu'il ne milite pas seulement pour l'amélioration des conditions de travail des ouvriers ou pour la diminution des horaires qui étaient autour de 12 à 15 heures par jour à cette époque-là. Ce qui est étonnant dans son texte et original, c'est qu'il s'étonne de voir les ouvriers eux-mêmes réclamer du travail. Il dit au lieu de réclamer des biens ou de la nourriture, ils battent la tête contre la porte de l'atelier pour travailler. Donc à quoi correspond exactement ce besoin de travailler ? Alors, une forme de culpabilité, c'est un peu trop vite dit, mais en fait, tout se passe comme si on avait besoin de se convaincre qu'être vivant être vivant ne suffit pas à être actif. Et qu'il faut s'agiter beaucoup. Or, c'est pour ça que je m'amuse à mobiliser la philosophie de Maine de Biran, pour qui la première certitude, la plus radicale, et pas le cogito comme chez Descartes, et pas le « je suis, j'existe », et surtout, il ne la met pas à jour au terme d'un long travail de doute hyperbolique, etc. Pour lui, c'est l'évidence, c'est que, vraiment, si on fait l'expérience de pensée qui consiste à se dépouiller de toute circonstance et presque de son corps, être un sujet pensant, c'est s'éprouver comme une initiative et quelque chose qui lui résiste, comme une tension, comme ça. Donc, pour durer, pour vivre, pour être identique à soi-même et avoir une identité, on s'efforce déjà. C'est même pas qu'on s'efforce, c'est que nous sommes efforcement ou effort. Donc il n'y a pas tellement besoin de s'agiter pour se convaincre qu'on est actif. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette capacité, je veux dire, c'est pareil, c'est une question vieille comme le monde, vieille comme Socrate, enfin, et plus, mais... Qu'est-ce qu'on fait de cette capacité à penser ? Parce que c'est là l'activité, comment dire ? C'est là que l'effort commence. C'est là que l'effort commence et c'est même là qu'il se poursuit. Faire des efforts musculaires, on en a besoin. Puis on a, je sais pas, je peux dire n'importe quelle connerie. Je suis pas Yuval Harari, mais on en a besoin de ses jambes pour capturer des proies ou pour échapper aux prédateurs. J'en sais rien. Maintenant, on fait du sport, on a besoin de ses muscles pour bosser à l'usine, on a besoin de marcher, et puis on a besoin, jusqu'à preuve du contraire, d'un corps pour penser. Et donc, il faut que l'ensemble de la complexion, on a besoin du corps pour aller bien. Mais le corps, c'est d'abord la pensée. Un corps qui se fabrique, c'est de la pensée à l'œuvre, quoi qu'on en dise, c'est pas de la mécanique. On n'a toujours pas trouvé la façon de réduire la genèse d'un embryon à des lois physiques. Ensuite, il faut vivre, il faut se nourrir. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que pourquoi produire plus de cette activité, disons, musculaire. Pourquoi produire plus de mouvements qu'il n'en faut pour vivre ? Alors, y a une réponse, pour jouer, ou alors pour accumuler du capital, pour produire plus de richesses. Voilà. Et on est une société qui valorise ce travail pénible pour accumuler de la richesse. Je recours dans le texte à un auteur que je connais très vaguement, dont j'ai lu une conférence de 66 et qui s'appelle Georges Devereux, Georges Devereux, c'est lui qu'on considère comme le père de l'ethnopsychiatrie. C'était un freudien qui s'est, pour dire très vite, amusé à psychanalyser, amusé, il s'est pas amusé d'ailleurs, mais il est connu pour avoir psychanalysé les Indiens américains, les Indiens Moaves ou d'autres. Enfin, il y a un De Plechin, je crois, a fait un film sur lui, un assez beau film. Entre autres réflexions, Devereux fait ce constat que dans bien des sociétés humaines, l'hyperactivité est suspecte plus que valorisée et qu'il y a inversement à chez nous, que les sociétés dites primitives à l'époque où il écrit, on dit encore comme ça, ne valorisent pas l'accumulation du capital et ne valorisent pas surtout le travail, ne s'astreignent à une activité, à un travail productiviste, disons, qu'à certains moments de l'année où il faut accumuler un peu les récoltes, je sais pas exactement. Mais se tuer à la tâche, c'est une absurdité. Et il développe un concept assez amusant qu'il appelle la fatigue névrotique. Et il dit que notre fatigue est une réaction à cette façon de vivre complètement antinaturelle qui consiste à s'épuiser à la tâche méthodiquement, tant d'heures par jour. Et voilà.
Et justement, dans les pages finales du livre, tu en viens justement à dire qu'à tes yeux et à la lumière de tous ces éléments-là, que finalement l'inactivité, enfin, entre guillemets, l'inactivité non productive, on va le dire comme ça, même si de fait on est toujours en train de faire quelque chose, c'est finalement une des parts les plus nobles de l'humanité, qui est potentiellement celle pour laquelle on est le mieux doté, le mieux fait finalement.
Disons qu'à l'époque des winners, des fonceurs, des suractifs, des short sleepers, etc., on peut retourner la chose et disqualifier la précipitation. Et partant du constat que l'inactivité, en fait, est impossible. La flemme ou la paresse, c'est vraiment une question de morale. C'est-à-dire qu'on n'est jamais inactif parce que, précisément, on pense toujours ce qu'il faudrait... ce à quoi on est parfois encouragé à ne pas, mais on pense malgré soi. Et dans ce moment-là où on est sûr de rien... que les sceptiques appelaient la suspension du jugement, les sceptiques et Montaigne, je me dis que peut-être là, il y a déjà une activité. Alors, il ne s'agit pas d'être complètement paralysé et de ne jamais prendre de décision, de ne jamais agir. mais il faut rendre toute sa valeur à ce moment de l'action, parce que c'est un moment peut-être où le corps ne bouge pas, où on n'est pas engagé dans une action physique ou même politique, mais heureusement qu'il faut préserver le temps de l'hésitation, qui est le temps de la bonne décision quand elle se présente, ou du renoncement. Ça vaut le coup de se confronter à ces doutes. C'est quand même la vraie aventure, elle est là, plus que dans les sauts en parachute ou en élastique, à mon avis.
Merci beaucoup,
c'est
Olivier.
C'est moi qui vous remercie. Je te remercie.
Je t'en prie. Je rappelle le titre de ton dernier livre, Le petit homme dans ma tête, qui m'empêcha de m'y mettre, qui est donc disponible en librairie. C'est publié chez Premier Parallèle. On salue chaleureusement Amélie. Quant à nous, chers chouquettes du monde entier, on se retrouve bientôt pour de nouvelles réjouissances littéraires. D'ici là, bonne lecture.